Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur Transistor et Radio Boa pour ce numéro spécial de Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air. Une bouffée d'art pur aujourd'hui. Bien au contraire vous convie au musée de Pont-Aven qui propose en partenariat avec le musée d'Orsay une splendide exposition temporaire sur le thème des sorcières dans l'art. Sorcières 1860-1920, fantasme, savoir, liberté. Cette exposition, ouverte le 7 juin 2025, est visible jusqu'au 16 novembre. La sorcière, par essence, est une révolte féminine entourée de mystères, un pied de nez aux autoproclamées forces du mal, un coup de balai occulte dans la suffisance d'un patriarcat oppressant. Rimbaud lui-même ne s'y trompait pas dans ses illuminations lorsqu'il écrit « La sorcière qui allume sa braise dans le pot de terre ne voudra jamais nous raconter ce qu'elle sait et que nous ignorons ». Toutes ces arcanes offrirent, comme en témoigne la diversité des œuvres proposées à Pont-Aven, un océan d'inspiration aux artistes qui se passionnèrent pour ces mythiques créatures aussi effrayantes qu'attirantes. Un événement exceptionnel, guide exceptionnel, Sophie Carvran, directrice et conservatrice du musée de Pont-Aven, a très gentiment accepté de nous y accompagner. Difficile de rêver mieux. Bonjour Sophie Carvran, merci de nous éclairer sur le monde ténébreux des sorcières.
Merci pour votre invitation.
Alors, le sujet à l'époque, c'est-à-dire 1860, redevient d'une actualité brûlante grâce au livre de Jules Michelet, paru en 1862.
Oui, vous avez totalement raison. C'est pour ça qu'on a choisi cette période du 19e siècle qui avait été peu explorée du point de vue de la figure de la sorcière, parce que cet historien, Jules Michelet, fait paraître un ouvrage, La sorcière, en 1862, comme vous le disiez, qui est un ouvrage qui va renverser totalement le stigmate, l'idée qu'on se faisait de la sorcière, plutôt laide, le nez vérolé, celle qui fait peur, et il en fait une jeune femme totalement positive, en osmose avec la nature et qui est rebelle à l'Église. Alors, Jules Michelet était un grand anticlérical, rebelle à ce qu'on appellerait aujourd'hui les normes patriarcales. Et c'est sans doute plutôt de cette sorcière de Michelet que se revendiquent les féministes des années 1970 lorsqu'elles font paraître une revue qu'elles appellent justement Sorcière et qui est un des premiers, on va dire, pavés dans la mare pour l'égalité femme-homme dans la société française.
Pourtant, Michelet, qui était un historien sérieux, qui est connu pour son histoire de la Révolution française, son livre, là, La sorcière, il est truffé d'erreurs, il est bâti sur des documents complètement falsifiés, où par exemple, il parle de persécution des sorcières au Moyen-Âge, alors qu'il n'y en a jamais eu. Les ecclésiastiques disaient que c'était des histoires de bonnes femmes et qu'ils ne voulaient pas en entendre parler.
C'est vrai que c'est un historien. Alors, je crois qu'il a été un peu, on va dire, emberlificoté par un faux historien, un faux témoignage historique. Ce qui permet, comme vous le faites, de remettre en contexte et en effet de dire que, à tort, on dit souvent que la chasse aux sorcières a eu lieu au Moyen-Âge et en effet, la chasse aux sorcières a eu lieu au temps moderne, entre le 15e et le 17e siècle. Et par exemple, une sorte de manuel pour les nuls des inquisiteurs, le Maleus Maleficarum, le marteau des sorcières, paraît en 1486, écrit par deux moines dominicains, où c'est vraiment un manuel, c'est horrible à lire aujourd'hui, parce que ça dit comment trouver des sorcières, comment les torturer pour qu'elles avouent, et c'est eux qui créent tout ce fantasme des sorcières qui enfourchent leur balai pour aller au sabbat forniquer avec le diable.
Oui, donc c'était les siècles des Lumières,
hein, oui, le 16e,
17e. Ça a quand même fait 60 à 90 000 femmes qui ont été brûlées. Il y a des procès célèbres en Allemagne ou à Würzburg, par exemple, entre 1573-1630, il y a 900 femmes qui sont brûlées vives.
Oui, c'est ça. Alors, les chiffres sont pas toujours faciles à trouver. Comme vous le disiez, on imagine entre 60 et 90 000 personnes, dont 80% de femmes, parce qu'il y a eu aussi des sorciers qui ont été, enfin, en tous les cas, des hommes qui ont été condamnés pour sorcellerie, et souvent une chasse aux sorcières qui était liée à des choses bénignes, à des femmes sans doute guérisseuses, mais aussi à des conflits de voisinage qui ont dégénéré. Donc voilà, c'est comme vous le disiez, en plein temps moderne, on se trouve avec des choses très obscurantistes.
Ouais, comme à Salem, où il y avait un conflit sur des terres agricoles qui ne voulaient pas être cédées, donc on a exécuté le monsieur qui ne voulait pas vendre. Et donc, mais ce siècle-là aussi, 1860, quand il commence, c'est une période extraordinaire, avec un bouillonnement artistique extraordinaire, avec Nietzsche qui dit « Dieu est mort », avec Johann Chapoutot, qui est un grand historien d'aujourd'hui, qui parle d'une forme de désenchantement du monde à cette époque, c'est-à-dire la mort, la fin, le déclin au moins très important du christianisme. Et la sorcière vient pas boucher un peu dans l'art ce qui était avant le sujet principal, c'est-à-dire les sujets sacrés.
Alors, peut-être, en tous les cas, si Dieu est mort selon Nietzsche, les artistes, notamment symbolistes de la fin de siècle, vont se réfugier dans un certain mysticisme. Ils vont être férus de théosophie, d'occultisme, parce que justement, face à ce 19e siècle bouillonnant, comme vous le qualifiez, où on voit la mise en place d'une nouvelle ère industrielle, la modernisation, l'émigration aussi vers les villes, bien face à ces bouleversements, certains artistes vont vouloir se replier vers une sorte de cocon mystique et qui est en effet plutôt un terreau fertile pour que la figure de la sorcière apparaisse dans leur art. Mais sous une sorcière à différentes facettes, parce que ça peut être... c'est toujours la femme qui fait peur, en tous les cas. Les artistes symbolistes ont peur. L'homme du 19e siècle a souvent peur de la femme parce que c'est le début aussi de l'émancipation féminine. Et donc, les artistes de la fin du 19e siècle représentent soit la femme fatale, l'allumeuse, la vénéneuse, ou alors la vieille peau, celle qui est ménopausée, et qui là aussi fait peur. Ou alors la sachante, et là aussi elle fait peur. En tous les cas, les femmes et les sorcières font peur tout au long du 19e siècle et de la première moitié du 20e siècle.
Oui, la femme fait peur par définition. comme ça, on est tranquille, ça permet de l'éliminer. Et puis,
exactement, de trouver un bouc émissaire, c'est totalement ça.
Oui, ça sert à ça d'ailleurs, hein, faut pas se leurrer. Et l'exposition est présentée en trois parties, avec le feu en fil rouge. Le feu de la nuit, le feu au corps, le feu du savoir. La sorcière, c'est donc une créature de la nuit, c'est propice à la dissimulation, aux métamorphoses, au sabbat. La nuit, c'est à la fois magique et diabolique. Il y a un très beau tableau qui s'appelle « Les lavandières de la nuit » de Yann Dargent. Il y a des vases aussi. La sorcière, c'est quelqu'un qui règne sur une partie qui est obscure de l'âme humaine.
Exactement. D'ailleurs, les démonologues du 15e siècle qui créent ce fantasme autour de la sorcière, parce que bien sûr, au 19e siècle, plus personne ne pense qu'il y a eu des sabbats et que les sorcières enfourchaient leur balai, mais ce moment de la nuit reste en effet celui qui est propice à tous les rites, à la sexualité débridée aussi, dont on accuse les sorcières, et puis d'un autre côté aussi à une certaine poésie. Voilà, on retrouve toujours cette ambivalence, et vous citiez les lavandières de la nuit de Yann Dargent, voilà, artiste breton, et ça c'est important de le souligner.
Ah oui, je l'avais jamais vu, moi.
Ah, il faut vraiment le voir, parce que c'est un superbe...
Je l'ai vu.
Ah, vous l'avez vu, il vient du Musée des Beaux-Arts de Quimper, hein, c'est un prêt du Musée des Beaux-Arts de Quimper. Et donc, Postique, à la Toussaint, au lieu de célébrer ses morts, va au cabaret. Et lorsqu'il revient dans la nuit, il rencontre des femmes, les lavandières de la nuit, et il tord avec elles du mauvais côté le linge, et donc il part vers son funeste destin, emporté par ces spectres sorciers vers la mort, et tout ça dans un décor, mais vraiment fantasmagorique, avec notamment, on a l'impression que les arbres autour de lui s'animent et s'emparent de poignards, et on sait que ce tableau de Yann Largent a inspiré Walt Disney pour certaines scènes de Blanche-Neige. Donc là, on voit vraiment la nuit qui fait peur et dont se sert aussi l'Église pour dire surtout ne sortez pas la nuit, surtout n'allez pas au cabaret parce que voilà ce qui vous attend.
Oh ben c'est la nuit qu'on court à sa perdition, tout le monde le sait quand même.
Totalement.
Je comprends pas. Et c'est vrai qu'il y a un mot qui est capital, c'est ambivalence. Parce qu'à la fois la sorcière, elle est capable, et ça on le voit dans les œuvres, dans plusieurs tableaux, dont l'affiche de l'exposition, elle est à la fois capable de préparer dans une coupe des filtres d'amour, comme des poisons.
Oui,
et c'est ça. Et elle peut les deux.
Totalement. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup apprécié dans cette exposition justement ce côté qui n'est pas du tout linéaire. Je peux vous parler d'une autre œuvre aussi qu'on avait failli choisir pour affiche, qui est une œuvre d'Eugène Grasset qui s'appelle Trois femmes et trois loups. Oui. Et on voit trois sorcières qui lévitent. Elles n'ont pas de balai, mais elles survolent une forêt avec trois loups et on voit nonchalamment laissé par terre un corps de chasse. Donc on se dit que la chasse est lancée, mais quand on regarde bien le visage de ces femmes, de ces trois sorcières, on se pose cette question. Est-ce que ce sont les sorcières qui sont en train de mener une chasse sauvage ou est-ce que ce sont ces sorcières qui sont chassées? On a l'impression qu'elles sont pétries d'effroi et on est vraiment toujours finalement dans cette ambivalence entre femmes chasseuses, femmes chassées, ou comme vous le disiez pour le tableau d'Evelyn de Morgan qui s'appelle Le filtre d'amour, guérisseuses ou empoisonneuses. Et on revient toujours avec voilà, ce côté, ce regard que pouvaient poser les artistes majoritairement masculins au XIXe siècle sur la figure de la sorcière.
Mais c'est ce qu'on retrouve même dans la culture générale, où par exemple en breton, le zou, ça veut dire en même temps poison et médicament, on ne sait jamais trop.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que ce côté empoisonneuse, on le retrouve avec une autre figure, là aussi de Jeanne Grasset, qui s'appelle la vitrioleuse, où on voit une femme au teint verdâtre qui tient une coupe. Et ça s'appelle la vitrioleuse parce qu'à la fin du 19e siècle, il y a eu quelques faits divers justement où certaines femmes jetaient du vitriol à la tête de leur mari, sans doute adultérin. Voilà, on est toujours dans cette partie-là, alors qu'on peut aussi avoir des tableaux où on voit des femmes sorcières plutôt guérisseuses, celles qui connaissent encore l'usage des plantes.
Et la plus belle ambivalence, c'est quand même Jeanne d'Arc, qui a été brûlée comme sorcière et qui tout d'un coup devient une sainte, qui est révérée, et qui est intégrée au récit national.
Oui, alors c'est vrai qu'on a deux œuvres autour de Jeanne d'Arc. Ça, c'est assez étonnant, mais c'est encore une figure controversée aujourd'hui. Alors, controversée ou, comment dire, comme vous le disiez, qui est utilisée d'une manière différente selon le point de vue. Alors, en effet, j'ai vu dans une autre exposition, je crois que c'était au musée de Cluny, les minutes du procès de Jeanne d'Arc, où un des clercs avait dessiné à la marge un petit dessin qui représentait justement Jeanne d'Arc en sorcière. Donc il y a déjà vraiment cette idée de la femme, qui est vierge, de la femme aussi qui est capable de monter à cheval et de partir guerroyer. Ben voilà, ça peut vite devenir une sorcière. Trop de liberté fait souvent peur et voilà, transforme et amène quelquefois jusqu'à la mort.
Ouais, et puis si on en parle à Trump, il va nous parler de transgenre, donc ça ne va pas s'arranger pour elle.
Je parle souvent de l'exemple de J.D. Vance, le vice-président justement des États-Unis, qui pendant la campagne électorale, a dénigré les femmes célibataires avec des chats. Alors qu'est-ce que ce sont des femmes célibataires avec des chats? Ça reste une sorte de définition de la sorcière. Donc voilà, on voit aussi comment peuvent être représentées les femmes dans l'esprit de certains.
Ah, quand on parle de grands intellectuels, on s'y retrouve toujours. Et il y a un tableau, et il me semble, si mes souvenirs sont bons, que c'est le premier de l'exposition, c'est un tableau de Gustave Moreau qui s'appelle « Victime ».
Oui, alors
en même temps, elle est au milieu, on dirait qu'elle est au milieu des flammes c'est des brins rouges, etc. Et le doigt, l'index pointé sur le visiteur.
Oui, vous avez vraiment tout dit. C'est vrai que c'est une œuvre, c'est l'une des premières œuvres que le visiteur et la visiteuse découvrent lorsqu'il entre dans notre exposition. Et alors c'était sans doute un projet de décor pour un tribunal par Gustave Moreau. C'est un prêt du musée Gustave Moreau. C'est une œuvre qui sort pas souvent de leur salle. Et en effet, mais vous le décriviez très bien, avec ce doigt accusateur, elle est en même temps victime, accusatrice. On voit un poignard qui lui a... qui a, comment dire, abîmé ses chairs, sous une forme de tondeau et dans des tons en effet brun, brunâtre, presque une scène apocalyptique. Et quand on est face à cette œuvre, eh bien, là aussi, je pense qu'on peut avoir encore des réactions ambivalentes. Ça peut être aussi la peur, mais aussi le questionnement qui surgisse sur ce qu'on a pu faire à ces femmes pendant les temps modernes.
Ouais, c'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'est-ce que j'ai osé te faire pour que tu me désignes comme ça.
Ouais, c'est vrai, hein, c'est exactement ça. C'est un doigt accusateur, mais bon, alors nous, au musée, on n'est pas là pour condamner ni pour juger, mais pour amener des éléments de réponse ou au moins des éléments de questionnement. Et on espère vraiment que cette exposition sur les sorcières, outre le plaisir esthétique que l'on peut avoir à découvrir les œuvres, peut faire aussi surgir des interrogations sur notre société contemporaine.
Et moi, j'ai une question que je voulais vous poser, c'est l'absence de sorcier. Le sorcier n'a pas la même place dans l'imaginaire collectif ?
Totalement. Au XIXe siècle, très 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 peu de représentations de sorciers. En tous les cas, dans les beaux-arts, hein, si on peut dire. Parce que, comme je vous le disais en introduction, c'est la femme qui intéresse, c'est la représentation de son corps, de sa chair, dans un certain regard érotisé. Si vous avez vu l'exposition, on a oui. peu finalement d'œuvres qui montrent... alors, je ne sais pas comment dire, mais les vraies sorcières, c'est-à-dire en Bretagne, ce sont les guérisseuses. On a une œuvre de Robert Wiley, un artiste américain qui est venu à Pont-Aven en 1863 et qui décrit une sorcière, ça s'appelle comme ça, la sorcière bretonne. Et c'est justement cette vieille femme en bout ou couette que sans doute dans une Bretagne sous-médicalisée, on allait chercher quand on avait un problème avec son enfant, parce qu'elle connaissait sans doute des potions, des ondes, gants et autres. Et cette représentation ethnographique, on la retrouve plus dans des ouvrages comme de George Sand, par exemple, qui dit que quand on est paysan, on est forcément un peu sorcier. La petite fadette, exactement. On le retrouve moins finalement dans la peinture ou le dessin, parce que c'est peut-être des sujets qui sont moins frappants que de dessiner le corps nu d'une sorcière avec le balai entre les jambes d'une manière assez érotique.
Eh ben, on a déjà beaucoup avancé. On va se permettre une première pause musicale avec Queens of the Stone Age, Burn the Witch. deuxième partie de la visite de l'exposition consacrée aux sorcières au musée de Pont-Aven, toujours en compagnie de Sophie Kervran, la conservatrice et directrice du musée. Donc après le feu de la nuit, le feu au corps. Et donc il y a une partie de la sorcière qui est en fait directement issue du diable, où il y a un tableau d'Otto Greiner où on voit le diable présentant la femme au monde. C'est la créature typique, quoi.
Oui, oui, oui. Et donc, c'est vrai que les traités de démonologie qui ont inventé tous ces rites autour du sabbat ont beaucoup inspiré ces artistes du 19e siècle. Et l'estampe d'Otto Greiner dont vous parlez, on voit en effet une femme très, très dévêtue, mais pas non plus totalement nue, ce qui l'érotise encore plus. On dirait presque une prostituée. Finalement, commence quelque part endiablée, en effet, avec le diable. Donc, c'est des scènes qui permettent, voilà, à certains artistes, finalement, de laisser libre cours à une représentation d'une sexualité débridée. Au 19e siècle, voilà, la femme, elle était soit mère au foyer, soit prostituée. En gros, c'était un peu l'image qu'on avait de la femme.
Ouais, surtout, vous en avez parlé, ce sont des femmes, celles qui sont accusées de sorcellerie la plupart du temps, condamnées, etc. Et celles qu'on voit dans les tableaux sont des femmes qui soit sont vierges et n'ont pas encore eu d'enfants, soit sont trop vieilles pour en faire. Ce sont donc des femmes qui sont plus productives, parce que la femme à cette époque-là, c'était, bon, en dehors du travail bien sûr, parce que les femmes travaillaient, hein. En dehors de ça, leur rôle principal, c'était de perpétuer la lignée.
Oui, et c'est dans la section le feu au corps dont vous parliez en introduction, c'est ça qu'on montre, et c'est ce que vous dites vraiment très bien, c'est-à-dire que dans les œuvres, on va retrouver ces deux représentations. La femme, voilà, la jeune femme qui n'a pas encore enfanté, qui est fatale, qui est une allumeuse, et de l'autre côté, la femme ménopausée qui ne peut plus donner d'enfants et qu'on accuse de stériliser ou d'essayer de stériliser les champs, mais aussi les autres femmes. Et on a des représentations assez, assez frappantes de ces deux entités. Et comme je le disais un peu plus tôt, le 19e siècle, c'est le début des mouvements d'émancipation de la femme, les premiers journaux, les premières journalistes. Qui commence à revendiquer une autre place de la femme que celle de prêtresse du domestique, si on peut dire. Et tout ça fait que vous avez ces deux images de la femme qui finalement surgissent aussi dans la représentation de la figure de la sorcière.
Jusqu'en 1920, en fait, le vêtement de la femme, l'apparence de la femme, le corps de la femme ne va cesser de se révéler. Les robes vont être plus courtes, elles vont même jusqu'à faire horreur se couper les cheveux, voilà.
Oui, c'est ça, avec la garçonne que l'on a un petit peu en tête, et puis en effet une revendication par rapport, c'est Paul Poiret qu'on dit qui va finir par abandonner le corset et autres. Mais ce qui est intéressant d'ailleurs, hein, quand on regarde la représentation des sorcières dans l'art du 19e siècle, l'une de leurs principales caractéristiques, c'est qu'elles sont totalement échevelées, elles ont toujours leurs cheveux libres, ce qui était un peu un crime de lèse-majesté entre guillemets dans une société où hommes et femmes d'ailleurs ne sortaient jamais sans chapeau.
Sortir en cheveux.
Ou sans coiffe. Ou voilà, c'est ça. Et alors que là, toutes ces femmes, justement, elles font un peu un crime en laissant leurs cheveux libres, ébouriffés, volant au vent.
Disons, est-ce qu'on pourrait dire, c'est une idée qui m'est venue comme ça, que devant la figure des sorcières, toutes les toiles, les œuvres, il n'y a pas que ça, il y a des statues, il y a des vases, etc., qui sont présentées dans l'exposition, c'est la perplexité des hommes devant le corps des femmes. Un mystère qu'ils n'ont toujours pas résolu, d'ailleurs, parce qu'il faut toujours qu'elles se justifient aujourd'hui de ne pas vouloir d'enfants.
C'est totalement ça, et on a essayé de le montrer à la fin de la section du feu au corps. Il y a un grand tableau de Moreau de Tours qui représente en fait des femmes qui sont internées dans un hôpital qui n'est pas la Salpêtrière, mais qui est un hôpital équivalent. Et on s'est rendu compte, et c'est là aussi quelque chose qui m'a beaucoup frappée en travaillant sur cette exposition, que ces docteurs, que ces aliénistes comme docteur Charcot par exemple, qui traitaient réalité ce qu'ils appelaient les hystérico-épileptiques, ont fait rééditer des traités de démonologie du XVe siècle, parce qu'ils considéraient que, eh bien, la femme malade internée dans leurs hôpitaux était en fait une sorte de sorcière du XIXe siècle. Et que plutôt que d'aller les brûler, eh bien, voilà, il suffisait d'aller lui faire des traitements tout aussi d'ailleurs torturants que sans doute pendant la chasse aux sorcières. Et on voit vraiment comment on se focalise là aussi, comme vous le disiez très pertinemment, sur le corps des femmes que l'on doit d'une manière ou d'une autre capitonner, en tous les cas contrôler, que ce soit par la torture pendant la chasse aux sorcières ou par des traitements médicaux qui sont quelquefois totalement non idoines aux problématiques des femmes qui sont internées.
Mais la sorcière aussi, elle a été récupérée par de nombreux courants, tout le monde a essayé de s'en emparer un peu, parce que c'est un mythe porteur. Donc aussi bien, on l'a vu, des féministes, que par exemple par Heinrich Himmler, qui en a fait quelque chose d'important, qui voyait une preuve des persécutions chrétiennes contre les femmes ariennes. Et on a l'impression, l'image est malléable à l'extrême, on en fait ce qu'on en veut.
Alors on en fait ce qu'on en veut. Moi, je préfère quand on en fait une figure de rébellion et une figure positive. En tous les cas, aujourd'hui, il y a de nombreuses jeunes femmes qui se revendiquent sorcières, que ce soit d'une manière spirituelle ou que d'une manière politique. Je pense en 2017, ce sont des femmes qui se sont costumées en sorcières pour militer contre la loi sur le travail demandée par le président Emmanuel Macron, il y a quand même une dimension politique qui peut être donnée à la figure de la sorcière, mais qui n'est pas présente au XIXe siècle, mais qui va vraiment émerger au XXe et XXIe siècle.
C'est celle qui est en dehors des codes.
C'est ça. C'est pour ça qu'il y a aussi ce mot liberté dans le sous-titre de l'exposition. Montrer que on n'a pas besoin. Certes, la mère, être mère, ça peut être tout à fait une posture pour les femmes, mais on peut aussi ne pas avoir d'enfant, on peut aussi être une femme âgée sans avoir de problématiques. Voilà, c'est pour ça aussi que cette sorcière, elle continue à faire peur au XXIe siècle.
En fait, le but, c'est de montrer que la femme, c'est aussi un être humain qui a le droit d'avoir une vie choisie.
Exactement, c'est totalement ça, et c'est pour ça que je trouve que cette exposition, même si elle se cantonne dans la représentation au XIXe siècle, elle fait un tout petit peu un petit pas de côté en exposant 11 artistes contemporaines, donc des femmes du XXIe siècle, des artistes femmes qui se sont emparées de ce mythe de la sorcière, mais pour en faire quelque chose de beaucoup plus positif que le regard quelquefois très érotique posé par les artistes hommes du XIXe siècle. Et des femmes comme Dalila Dalias Bouzard, Jade Boissin, Laurie Carp, Sophie Lecomte, Kiki Smith, en font des femmes, non pas de pouvoir, mais des femmes de puissance. Et c'est aussi ça qui est revendiqué sans doute aujourd'hui dans notre société contemporaine, cette égalité homme-femme, et cette figure de la sorcière peut être assez représentative de ce combat.
Mais il y a une place aussi pour l'humour. Dans cette exposition, il y a un dessin qui est extraordinaire avec un prêtre à tête de porc qui touche le sein d'une jeune femme qui est manifestement accusée de sorcellerie. Et il est à côté d'un juge avec une queue de rat, physiquement et manifestement très troublé par cette beauté. Ou le tandem de Jean Weber, on voit deux sorcières sur un même balai et juste en dessous, il y a un vélo tandem.
Ouais. Alors moi, je préfère justement Jean Weber qui a un petit humour un peu potache en comparant le ballet du 15e siècle à la bicyclette du 19e siècle et qui me fait penser, je fais un tout petit aparté, parce qu'on finit à la fin par quelques films et notamment un film de Georges Méliès qui représente une sorcière qui s'envole avec son ballet et les effets spéciaux étant ce qu'ils sont, on devine que l'actrice est sur un vélo. Donc voilà, ça fait le petit lien avec Jean Weber. Je suis un peu moins convaincue donc par la première œuvre dont vous parliez, qui est une œuvre de Martin Van Maal, qui a illustré justement La sorcière de Jules Michelet dans une édition postérieure à celle de 1862. Et voilà, où on sent un peu de sadisme et d'érotisme, et qui, je trouve, quelquefois dévoie un peu le texte de Jules Michelet.
Mais bon, voilà. Moi, j'avais pas le texte à côté, donc.
Voilà. Un peu d'humour, ça fait du bien aussi, temps à autre.
Ouais, vu comme ça, il était vraiment, vraiment très, très bien. Vraiment très, très bien. Donc, les sorcières, elles sont censées posséder un savoir ignoré des hommes. Alors que la femme à cette époque-là n'est jamais considérée comme majeure. Mais comment, par exemple, Marie Curie, elle avait déjà eu 2 prix Nobel en 1920. Y avait des femmes qui étaient avocates, elles n'avaient pas le droit de plaider, mais elles étaient avocates. Il y avait des femmes qui étaient médecins, elles n'avaient pas le droit d'exercer. Donc, petit à petit, le barrage, il commençait à se rompre.
Oui, le barrage commence à se rompre, et en même temps, là vous parlez de scientifiques, d'avocats, moi je pourrais parler plus de ce que je connais qui sont les artistes femmes, il y avait des artistes femmes au 19e et dans la première moitié du 20e siècle, mais après, il y a eu une certaine invisibilisation de toute cette partie-là, parce que l'histoire, elle a été faite par des hommes. Alors certes, Marie Curie, elle est restée finalement dans les annales, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, pourquoi elle est restée dans les annales? Parce qu'on en a, on a fait un peu la même chose qu'avec les hommes, c'est-à-dire ce qu'on en a fait avec un génie. Un peu comme Camille Claudel,
oui, que l'on a redécouverte.
Voilà, on en a fait un génie, en plus avec un certain storytelling en bon français, une histoire où on peut raconter des laissés, elle finit internée. Et alors qu'il y avait plein, autour de Camille Claudel, il y avait plein de femmes sculptrices. Autour de Marie Curie, il y avait sans doute tout un aréopage de femmes scientifiques. Mais finalement, l'histoire, a posteriori, a beaucoup occulté cette présence-là. Et aujourd'hui, c'est dans de nombreux domaines que l'on commence finalement à montrer qu'en effet, les femmes étaient vraiment présentes dans de nombreux domaines, dans de nombreuses activités, mais qu'on l'a un petit peu occulté, mis de côté pour garder plutôt une histoire faite par les hommes.
Oui, on en avait parlé dans une émission, bien au contraire d'ailleurs, où les femmes avaient énormément contribué aux mathématiques, etc. Mais ce n'était pas elles qui signaient les articles.
Oui, exactement. Et souvent, on se retrouve quelquefois avec des couples où, on retient le nom de l'homme et pas celui de l'épouse, alors qu'elle a totalement contribué finalement à l'activité de son époux.
Et vous en parliez tout à l'heure, il y a la psychiatrie et, oui, la psychanalyse qui vont particulièrement s'intéresser aux femmes, qui vont particulièrement aussi s'intéresser au spiritisme, à l'hypnose, etc. Il y a toute une partie comme ça de la science qui tout d'un coup va presque normaliser la sorcière.
Oui, c'est vrai que c'est ces séances de spiritisme dont on retrouve de nombreuses photos, de nombreuses représentations, de nombreux écrits. Et là, on revient à cette fin de siècle où on a l'impression que la raison prend le pas. C'est quand même le siècle du positivisme, de l'avancée de la science. Et au final, où les artistes, mais pas que les artistes d'ailleurs, cherchent une sorte de refuge dans quelque chose qui pourrait les mettre en connexion avec l'invisible. Et c'est pour ça que ce 19e siècle est assez étonnant dans finalement cette coexistence entre science et finalement séance de spiritisme. On prend Victor Hugo notamment, dont on a quelques œuvres dans l'exposition, qui est un grand amateur de spiritisme. De toute cette...
Conan Doyle.
Oui, Allan Kardec, etc. Enfin, ouais. C'est vrai que c'est assez fou, et c'est pour ça que la sorcière, comme je le disais en introduction, est en terrain fertile à cette période-là.
D'ailleurs, il me semble qu'il y a une Esmeralda dans l'expo.
Oui, en effet, on a eu une œuvre de Victor Masson qui illustre Notre-Dame de Paris de Victor Hugo. Esmeralda, voilà, là aussi, c'est une figure positive, une sorcière qui fait peur parce que, bah, voilà, c'est une femme du voyage, c'est l'égyptienne, donc c'est l'étrangère, c'est celle qui va côtoyer les bas-fonds, etc. Donc,
désirée par le prêtre.
Voilà, on retrouve finalement cette ambivalence avec l'Église, et on sait que Victor Hugo défendait ardemment l'abolition de la peine de mort, et il a fait notamment des dessins qu'on expose aussi dans la première partie de l'exposition, qui s'appelle Le poème de la sorcière, où il représente les juges d'un procès en sorcellerie sur une femme, mais aussi, vous savez, les spectateurs qui viennent assister au bûcher, oui. Et ils ont tous des tronches et des trognes horribles, et tout ça pour montrer eh bien, comment finalement quelquefois on peut trouver une sorte de jouissance à aller regarder la mort des autres. Et voilà, pour lui c'était un élément pour montrer combien la peine de mort devait être absolument abolie.
Je crois que ça s'appelle le Schadenfreude. Eh bien, on est bien arrivé à la seconde pause musicale. On a beaucoup travaillé. On va s'écouter Screamin' Jay Hawkins. I put a spell on you, je te jette un sort.
I put a spell on you. Cause you're mine. Do, 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, Daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine.
Troisième et dernière partie de cette remarquable visite d'exposition du musée de Pont-Aven consacrée aux sorcières dans l'art au cours de la période 1860-1920 et qui s'intitule Le feu du savoir. Donc c'est cette troisième partie, que recouvre ce titre de feu du savoir ?
Alors, c'est encore une autre facette de la sorcière telle que représentée par les artistes au XIXe siècle. On a parlé justement de la vieille peau, de la femme fatale, et on finit par une figure peut-être plus positive et qui nous inspire encore aujourd'hui, c'est la femme de savoir. Alors, la femme de savoir qui fait peur toujours, mais une femme de savoir et qui connaît peut-être son acmé avec cette œuvre que nous sommes très fiers d'exposer et qui fait notre affiche, qui est la potion d'amour par une artiste femme britannique, Evelyn de Morgan, qui est une pré-raphaélite, et qui représente... Alors, est-ce que c'est une sorcière? Personne ne le sait, parce que elle n'a pas de balai, elle n'a pas de chapeau, elle n'a pas de chaudron, mais elle a une magnifique chevelure rousse, une tunique dorée, et puis surtout un chat noir qui nous regarde fixement. Et elle prépare un filtre, vous le disiez dans une autre partie de l'émission, est-ce que c'était un filtre bienveillant ou malveillant pour un couple que l'on voit en arrière-fond et qu'on peut imaginer être Tristan et Iseut. Mais ce qui est intéressant dans cette représentation, c'est que cette femme, elle est dans une sorte de studiolo italien. Elle est entourée par les livres. C'est une femme sachante, c'est une femme qui a des pouvoirs, qui a la puissance du savoir et voilà, qui est beaucoup plus du côté de la représentation de Jules Michelet que d'autres figures de la sorcière qu'on a pu voir dans les sections précédentes.
Ouais, elle a une image très très positive, je trouve, moi, cette affiche-là. On n'est pas effrayé quand on la voit.
Pas du tout, on n'est pas du tout effrayé et on a vraiment une image voilà, positive de cette femme qui sait et qu'on va retrouver juste en face d'ailleurs de ce Evelyn de Morgan. Vous avez une autre artiste femme qui s'appelle Clémentine Dondé, dont on connaît peu de choses d'ailleurs, c'est un prêt du Musée des Beaux-Arts de Dijon et qui représente une vieille prophétesse. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vieille femme, elle n'est pas du tout représentée comme dans les sections précédentes, avec la peau flasque, les cheveux dans le vent, enfin cette horrible femme qui nous fait peur avant d'aller dormir le soir. Au contraire, c'est une femme qui est, donc c'est une devineresse, hein, c'est une femme qui est en train d'étudier un livre, qui est en train d'étudier le tarot. Et celui qui fait le plus peur dans ce tableau, c'est moins cette devineresse que le chat. Qui est sur son épaule. Si vous avez visité l'exposition, oui. Vous avez dû le voir.
Ah, il y en a des chats noirs.
Ouais. Ah, ouais, il y a des chats, mais alors celui-là, il est. C'est celui qui fait le plus peur. Il nous regarde fixement alors que la vieille femme est en train de lire son livre. Et il a des yeux jaunes avec une touche de rouge. On a l'impression qu'il va nous sauter dessus. Et c'est intéressant parce que finalement, c'est plus que le chat noir qui fait qu'on se dit c'est que c'est un indice pour dire que ce sont sans doute des sorcières qui sont représentées dans ces tableaux.
Et je reviens à la leçon avant le sabbat de Louis-Maurice Boutet de Montvel. Alors là, c'est pareil, c'est un artiste, je ne connaissais pas du tout. On voit une vieille femme qui initie une jeune fille. Et c'est la sorcière, elle est initiée forcément par une femme. Il y a l'éducation des hommes, c'est-à-dire à l'école, et il y a l'initiation des femmes qui donne des sorcières.
Oui, c'est vrai, et ce tableau qui vous a marqué est un tableau qui en plus résume finalement toutes les facettes de la figure de la sorcière dans l'art du 19e siècle. Donc c'est une leçon entre une jeune femme que Boutet de Montvel représente d'une manière très érotique, hein, une chair très blanche, elle est nue, elle a un bâton, un balai entre les jambes, et à côté d'elle c'est la vieille femme qui fait peur, la vieille sorcière avec le nez crochu, avec une sorte de capuchon sur la tête. Et en même temps, qu'est-ce qu'elles font toutes les deux? Elles sont en train de lire un livre. Et en effet, il y a une transmission du savoir de femme à femme, intergénérationnelle, ce qui fait aussi peur, finalement, aux hommes, un peu comme tout ce qui est pouvoir médical, où à un moment, on a demandé aux sages-femmes d'arrêter, finalement, et on a laissé le pouvoir aux médecins hommes, aux médecins masculins. On retrouve aussi finalement cette idée-là dans cette leçon avant le sabbat, qui est un beau tableau qui nous vient du château de Nemours.
Ah ben moi, je vous dis, allez le voir, il est magnifique. Et la sorcière, c'est un peu une femme orchestre. Quand on regarde bien, elle est tout, elle est prêtresse, elle est herboriste, sage-femme, médecin, porte-voix des forces occultes. Et je me mets du côté des hommes, c'est le sexe faible, comme on l'appelle à l'époque, ça ne tient plus une seconde.
Non, c'est vrai. Alors, on n'est pas là non plus dans l'exposition pour accuser tous les hommes.
Non,
loin de là, cette idée-là, et on sait combien beaucoup d'hommes sont aussi pour la parité entre les genres. Mais c'est vrai qu'on a, à la fin de l'exposition, c'est vraiment une sorte de montée en puissance où on voit ces femmes, des femmes voilà, qui permettent finalement une connexion avec l'invisible. Je pense au dernier tableau qui clôt l'exposition et qui est un prêt du Musée des Beaux-Arts de Quimper, l'Incantation de Paul Serruisier, où on voit trois Bretonnes, sans doute dans la forêt du Huelguat, qui vont rendre un culte invisible à sans doute une sorte de dieu, déesse de la nature que l'on imagine autour d'une sorte de rocher très anthropomorphisé. Et là, on est vraiment dans totalement autre chose. On n'est plus du tout dans le stéréotype de la sorcière. On est vraiment voilà, avec des femmes qui ont cette puissance de connexion avec, avec un au-delà, et on n'est plus du tout, en effet, dans ce stéréotype du sexe faible.
Ah, plus du tout. Et y a à la même époque, dans la littérature, il y a une très grande présence des sorcières.
Oui, oui. Alors ça, c'est, on retrouve des sorcières. Vous parlez de la petite fadette de Georges Sand. Peut-être que vous pensez
Baudelaire,
à d'autres ouvrages.
Oui. C'est Baudelaire, son amante Jeanne Duval, qu'il appelle sa sorcière d'ébène, hein, au flanc d'ébène.
Très bien, totalement. On a une œuvre d'ailleurs qui s'appelle Le tonneau de la haine, qui est une illustration par Carlos Schwab d'un poème de Charles Baudelaire, mais avec une vision là du coup assez misogyne, hein, de la femme. Mais c'est vrai qu'on retrouve cette figure-là, mais comme dans, voilà, comme dans les Beaux-Arts, en effet, c'est une figure qui infuse la littérature fin de siècle.
Où on retrouve aussi presque la dualité entre sorcière et chamane.
Oui, sans doute. Alors là, il faut peut-être que vous précisiez un peu votre pensée.
Devineresse, celle qui aide, celle qui est capable de maïeutique.
D'ailleurs, souvent, on a un grand tableau qui vient de la Tate à Londres, qui s'appelle le Cercle Magique, où on voit une femme, une sorte de druidesse, presque, alors je sais pas quel est le féminin de chamane, qui trace un cercle magique autour d'elle avec une sorte de bâton, et qui est pour elle une sorte, elle s'isole du monde qui l'entoure, partir presque en esprit avec les fumées qui émanent du chaudron qui est à côté d'elle. Donc ouais, vous avez raison, il y a quelque chose d'assez chamanique dans ces représentations-là.
Et donc l'exposition s'arrête en 1920, et avant 1920, on le sait bien, pendant la guerre de 14, les femmes se sont substituées aux hommes, il a bien fallu, dans les entreprises, etc., etc. Pendant la Grande Guerre, il y a eu la Grande Boucherie. Enfin, et est-ce que ça s'est arrêté après 1920? Est-ce que tout d'un coup, la sorcière est sortie des...
Non, au contraire. Alors c'est vrai que on nous demande souvent pourquoi on a pris ces bandes chronologiques. On aurait fait plus large. Ça aurait été une exposition qui est déjà foisonnante. Alors là, elle aurait été encore plus.
Non, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà pas mal. Dans l'art, je pense notamment aux surréalistes. Alors, les surréalistes qui, eux aussi, ont quelque chose, un lien très fort avec l'inconscient, notamment. C'est une figure qui est beaucoup présente chez les surréalistes et notamment chez les artistes femmes surréalistes. Donc, on peut faire un appel pour continuer et faire une deuxième exposition après 1920. C'est tout à fait faisable.
Oh, bah oui, Antonin Artaud, etc. Il y a matière. Il y a matière à faire quelque chose. Mais c'est aussi parce que 1860-1920, c'est le siècle où tout est sorti. Il y avait en même temps, dans l'art, il y avait Caillebot avec ses ouvriers qui refaisaient le plancher, il y avait Monet avec ses locomotives, et puis il y avait les sorcières.
Oui, et c'est presque une réponse finalement à cette entrée de la vie moderne du travail chez Caillebotte. On pense à, par exemple, à la gare Saint-Lazare de Monet. Voilà, certains artistes symboliques face à l'arrivée de cette modernité, eux ont choisi un autre côté. Est-ce que c'est le côté obscur? Je ne sais pas, mais ont préféré finalement cette figure beaucoup plus évanescente et beaucoup plus mystique de la sorcière que plutôt de représenter le monde tel qu'il se transformait.
Ben, pour répondre un peu, je me posais la question, savoir, avec toutes leurs qualités, leurs savoirs, les sorcières sont-elles pas un peu des réparatrices d'un monde qui, à cette époque-là, se fissurait un peu de toutes parts?
Oui, ça peut être sans doute une réponse. En tous les cas, si les artistes ont pensé à cette figure pour leur art, il y a sans doute en effet une idée que ça peut être une réponse, une conciliation finalement entre deux mondes. Je ne sais pas si ça a vraiment fonctionné, mais en tous les cas, ça peut être une réponse.
Ah, on n'a jamais tout ce qu'on veut, mais enfin, on peut espérer. Et pour finir... Pour finir l'exposition, bien entendu, il y a l'irruption du monde moderne avec des photographies et des films.
Oui, alors je parlais tout à l'heure de Georges Méliès. On a aussi, on diffuse quelques secondes d'une danse, d'une femme qui est en train de danser. Elle s'appelle Marie Wickmann. C'est une danseuse allemande et on est dans les années. Alors sa première danse, elle l'a fait dans les années 1910. Le film date des années de 1930, je crois. Et là, c'est la danse de la sorcière, Accentant. Et là, c'est assez fou parce qu'on voit aussi. On a parlé littérature, on a parlé beaux-arts, mais dans d'autres disciplines artistiques comme la danse. Eh bien, cette sorcière, elle vient aussi, la représentation de la sorcière vient finalement aussi bousculer les codes, parce que cette danseuse chorégraphe, Marie Wickmann, pour la première fois, propose une chorégraphie où elle est totalement assise. Elle fait des gestes, mais en étant assise, jamais debout. Et il n'y a pas de musique, seulement des bruits. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez presque oppressant. Et elle a mis un masque, et on se rend compte que c'est un masque de son propre visage qu'elle a mis sur elle. Donc, ça, c'est vraiment assez étonnant de voir cette danse de la sorcière imaginée par une chorégraphe totalement avant-gardiste. Et on a mis aussi l'extrait d'un film danois qui date de 1922 et qui s'appelle Axan, et dont je vous préconise le visionnage en entier, parce qu'il s'inspire vraiment justement de l'ouvrage de Jules Michelet, La sorcière, et montre la chasse aux sorcières dans sa réalité, c'est-à-dire la chasse à de pauvres femmes qui n'étaient pas vraiment rebelles à quoi que ce soit, mais qu'on a accusées de tous les torts.
Ah, c'était des femmes, c'est déjà pas mal. moi, je vous dis, allez voir toute l'exposition. Tout, absolument tout. Merci infiniment, Sophie Kervran, pour cette visite guidée de cette formidable exposition consacrée aux sorcières dans l'art entre 1860 et 1920 que vous pourrez aller admirer au musée de Pont-Aven jusqu'au 16 novembre. Ce serait impardonnable de ne pas en profiter.
Merci à vous pour ces échanges.
Ce numéro spécial de Bien au contraire, l'émission qui réfléchit sans en avoir l'air, est maintenant terminé. Nous reprendrons le cours normal de l'émission dès la fin de ce mois de septembre. À très bientôt, donc bye bye.